pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Cindy.
Bonjour Rose, bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes le 22 octobre et aujourd'hui nous revenons sur le FENO qui s'est tenu ce week-end au parc des expositions de Caen.
Le FENO, c'est 3 jours de festival et près de 395 exposants mettant à l'honneur le savoir-faire, le talent et les fiertés normandes. Et au milieu de ces différents stands se trouvait le COGITO, le réseau régional des acteurs des cultures scientifiques, techniques et industrielles. Cette communauté est née en mai 2024 pour favoriser l'accès à la culture scientifique sur le territoire normand. Pour en parler, nous avons reçu Julie Barenton-Guillas, vice-présidente de la région Normandie, Bruno Dosseur, directeur du Dôme à Caen, et Mathilde Petovari, adjointe de direction de l'Atrium à Rouen.
Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine. Et on commence avec la première page de l'Atlas cosmique d'Euclide, enfin dévoilée par l'Agence spatiale européenne.
C'est près de 100 millions d'étoiles et de galaxies qui y sont représentées. L'Agence spatiale européenne a dévoilé mardi 15 octobre une première partie de la carte de l'univers que réalise le télescope Euclide. Son objectif, percer le mystère de la matière noire et de l'énergie sombre qui constitue 95% de l'univers, mais dont on ne sait quasiment rien.
Et que voit-on sur ce pan de carte ?
Nous pouvons observer sur un fond noir constellé de points scintillants des nuages bleus baptisés Cirrus Galactique. Ils sont un mélange de poussière et de gaz à partir duquel vont se former de nouvelles étoiles. Deux galaxies interagissant entre elles peuvent également être discernées par les plus observateurs.
Mais quand est-ce que la carte sera achevée ?
Difficile de le savoir pour l'instant, il semblerait que dans 6 ans, Euclide révèle plus d'un tiers du ciel. Pour l'heure, le premier fragment à notre disposition représenterait seulement 1% de la carte finale. La France serait menacée d'une épidémie de dengue selon un rapport de l'ANSES.
En effet, le pays pourrait être touché par une épidémie d'arbovirose dans les 5 prochaines années. Et on parle bien d'arbovirose car il pourrait s'agir tout autant d'une épidémie de dengue que d'une épidémie de Zika ou de chikungunya. En somme, des maladies causées par un virus transmis par des arthropodes, ici le moustique tigre.
Mais pourquoi l'ANSES s'inquiète particulièrement aujourd'hui ?
Parce que depuis le 1er mai, 78 personnes ont contracté la maladie tropicale sans pour autant avoir voyagé dans un pays où la maladie est endémique, selon Santé publique France. En 2023, 66 cas autochtones avaient été détectés sur toute la saison des moustiques, du 1er mai au 30 novembre. Cette année, le record a donc été largement battu plus d'un mois avant la fin de la saison. 10 foyers d'une à 25 personnes malades ont été enregistrés en région PACA, en Occitanie, à Montélimar et en Auvergne-Rhône-Alpes. Une baleine à bosse a été aperçue dans la Seine entre Rouen et Le Havre.
Elle a été repérée pour la dernière fois le 16 octobre dernier. Selon la préfecture de la Seine-Maritime, l'animal nageait normalement, voire assez rapidement, et ne montrait pas d'incapacité. Seulement voilà, depuis ce jour, le cétacé est introuvable. Depuis vendredi, 2 bateaux se sont partagés la Seine pour en retrouver la trace. Le Walrus, bateau de l'ONG Sea Shepherd, et celui de l'Office français de la biodiversité, mais en vain. L'appel à témoins lancé par Sea Shepherd n'a lui non plus rien donné.
Mais comment expliquer qu'elle soit toujours introuvable ?
Plusieurs hypothèses seraient envisageables selon Gérard Mauger, président du groupe d'études des cétacés du Cotentin, interrogé par Ouest France. Elle a pu tout simplement rejoindre d'elle-même la mer par manque de proie et en raison de l'eau douce de la Seine. Il se pourrait également qu'elle ait été en apnée sous l'eau lors du passage des patrouilles échappant à leur radar. Dernière hypothèse, la plus pessimiste, elle n'a peut-être pas survécu et serait actuellement au fond de l'eau. La Colombie a remplacé son hymne par des chants de grenouilles et d'oiseaux.
C'est à l'occasion de la COP 16 que le producteur de musique Miguel de Narvaez a enregistré cette nouvelle version de l'hymne colombien. Les sons écrits d'une quarantaine d'oiseaux, de grenouilles, d'un jaguar et d'une baleine, enregistrés dans leur habitat naturel, composent cet hommage à la biodiversité. Il a été publié sur les réseaux sociaux ce mercredi 16 octobre, soit 5 jours avant l'ouverture de la conférence de l'ONU sur la biodiversité, hier à Cali.
Mais quel est le but de cet hymne ?
Eh bien, de motiver les citoyens et les gouvernements à s'engager dans la lutte contre l'effondrement de la biodiversité au niveau mondial. C'est pourquoi ce chant a été accompagné de plusieurs vidéos diffusées par le gouvernement colombien, vantant la diversité culturelle et les beautés naturelles et animales du pays. Pour rappel, les populations d'animaux sauvages se sont réduites en moyenne de 73% en 50 ans selon WWF. Des chercheurs australiens ont découvert les secrets génétiques du poisson-main tacheté.
Il est surnommé le poisson punk et préfère se déplacer sur ses nageoires plutôt que de nager. Le poisson main tacheté vit au sud-est de la Tasmanie et des scientifiques viennent de séquencer le tout premier génome de cet étrange animal. Ces chercheurs y sont parvenus en analysant un échantillon de tissu prélevé sur l'un d'entre eux. Ils auraient ensuite utilisé une technique permettant de séquencer un génome de haute qualité à partir d'ADN de mauvaise qualité.
Mais en quoi cette réussite est importante ?
Eh bien parce qu'il existerait aujourd'hui moins de 2000 poissons main tachetés dans le monde, d'où l'importance de protéger cette espèce aujourd'hui en danger critique d'extinction. La cartographie de son génome pourrait bien aider les scientifiques à surveiller ces poissons particulièrement vulnérables et à estimer leur durée de vie pour, on l'a dit, mieux les préserver. Et pour terminer ce flash coup d'œil dans le rétroviseur, il y a 227 ans, André-Jacques Garnerin devenait le premier être humain à effectuer un saut en parachute.
Le 22 octobre 1797, l'aérostat français sautait de 900 mètres de haut au-dessus du parc Monceau à Paris devant une foule émerveillée. André-Jacques Garnerin, innovateur passionné, a lui-même mis au point le premier prototype du parachute qui lui a permis d'effectuer sa première chute libre.
Mais à quoi ressemblait ce prototype ?
Il s'agissait d'un dôme en soie de 7 mètres de diamètre auquel était attachée une nacelle par un mât et 12 cordes. L'aérostat s'est jeté d'un ballon à hydrogène avant que le parachute ne s'ouvre après quelques longues secondes, rassurant les spectateurs. Selon au tableau, on raconte qu'André-Jacques Garnerin s'est fait une entorse à la cheville à l'atterrissage.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Ce week-end, notre région était à l'honneur au Fénau, l'événement du Made in Normandie. Ces 3 jours de démonstration, d'animation, de rencontres, de dégustation et de spectacles étaient l'occasion idéale pour inaugurer le COGITO, le réseau régional des acteurs des cultures scientifiques, initié par la région Normandie et piloté par le Dôme.
Et nous étions sur les lieux vendredi pour en parler avec Julie Barenton-Guillas, vice-présidente de la région Normandie, chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. On écoute ça tout de suite.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que le réseau COGITO ?
Alors le réseau COGITO, c'est un réseau qui a été créé à l'initiative de la région Normandie, mais avec l'ensemble des partenaires que l'on connaissait, qui sont partenaires de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle en région. Donc des partenaires, j'ai envie de dire des partenaires évidents comme les universités et les laboratoires, mais aussi nos 2 centres de culture scientifique, technique, industrielle, le Dôme et l'Atrium, et puis des associations. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on a en Normandie beaucoup d'acteurs de la diffusion de la CSTI et on souhaitait pouvoir travailler tous ensemble pour pouvoir mieux encore diffuser cette culture sur l'ensemble du territoire.
Pourquoi, en fait, ce réseau ?
Pourquoi ce réseau ? Alors, dans le cadre de notre nouveau schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, quand on est en région, on doit effectivement rédiger ce genre de schéma. On a positionné la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle en tant qu'ambition à part entière, avec un souhait de diffuser la CSTI partout sur le territoire et de toucher le maximum de jeunes normands et moins jeunes, enfin des jeunes normands et leurs familles, pas que dans les grandes villes où on a des universités, mais donc partout. Et donc ça passait d'abord par une identification en fait de tous les acteurs. Et le fait d'être en réseau, ça nous permet d'être visible, de pouvoir attirer l'ensemble de ces acteurs vers nous et de travailler ensemble à des nouvelles propositions, des nouvelles actions, de pouvoir mettre des choses en commun et en tout cas d'amplifier notre action et tous ensemble d'aller plus loin.
Et comment ce réseau il s'organise ? Comment il est géré, piloté ?
Alors en fait, on a organisé comme ça se fait beaucoup, on a un comité de pilotage. Un comité de pilotage, du coup, qui est composé de la région. On a les 3 universités qui sont avec nous. Nos 2 centres de culture scientifique, technique et industrielle, donc le Dôme à Caen et l'Atrium à Rouen. On a Normandie Doc, la Fabrique des Patrimoines, la Cité de la Mer. Et puis, j'ai oublié quand même, je regarde, mais... Et puis, évidemment, j'oublie pas la DRARI, donc, qui est présente ce matin, et l'Académie. Et donc, on travaille ensemble sur les grandes orientations à apporter à ce réseau, les grandes idées, le plan d'action. Et derrière, on organise des groupes de travail dans lesquels l'ensemble des membres du réseau peuvent participer, voire même piloter le groupe de travail, sachant que nous, pour la région, on a quand même transféré toute l'animation de ce réseau au Dôme.
Et quels sont les enjeux de cette collaboration ?
Alors les enjeux, je l'ai dit, c'est que quand on est, quand on intègre le réseau, on a, je disais tout à l'heure ça en souriant, mais on a des droits et des devoirs. Les devoirs, en fait, c'est d'être actif dans le réseau, éventuellement de participer à des groupes de travail. Et les droits, c'est de bénéficier de l'ensemble des choses qu'on a tous, on travaille ensemble, des sujets, des communs qu'on peut mettre ensemble, de pouvoir bénéficier de l'intérêt, de la mise en réseau pour pouvoir diffuser ses propres actions, de pouvoir les mettre en place sur d'autres territoires, de faire des nouvelles collaborations. Et donc, les enjeux de ce réseau, c'est en un, démultiplier nos actions sur le territoire. Dès qu'on peut refaire quelque chose, voilà, on va dire partager les bonnes idées. C'est permettre aussi à l'ensemble des acteurs de la CSTI de pouvoir développer leur stratégie, d'avoir de nouveaux moyens pour le faire. C'est de créer cette dynamique entre l'ensemble des membres du réseau qui sont de nature très, très variée, parce qu'on a, dans les membres du réseau, on a des collectivités, par exemple, qui sont plutôt des lieux d'accueil. Voilà, on a dit des musées, des bibliothèques, des doctorants, des laboratoires, donc des acteurs très différents qui à travailler ensemble, ça permet de créer des nouvelles collaborations. Et puis, donc, je le disais, c'est de faire vivre le réseau au travers de groupes de travail sur des sujets différents. Ça peut être la communication, ça peut être qu'est-ce qu'on pourrait mettre, rechercher des moyens qu'on pourrait mettre à disposition de l'ensemble des membres du réseau. Enfin, voilà, tout un tas de sujets de groupes de travail.
Et donc, vous avez déjà parlé du fait que c'est un réseau avec un certain nombre d'acteurs. Est-ce qu'il est amené à s'agrandir ? J'imagine que oui. Et dans quelle direction ?
Alors oui, on souhaite qu'il s'agrandisse au maximum. Donc, c'est pour ça qu'on commence à communiquer. Parce que le réseau Cogito, il a son petit nom que depuis récemment. Mais vraiment, l'idée, c'est d'élargir à tout le monde. On peut être un public, une association, n'importe qui peut adhérer au réseau et proposer de partir. À partir du moment où on est acteur de la culture ou même acteur en tant que lieu pour le recevoir, on peut participer et être membre du réseau. Et donc l'idée, c'est de l'élargir au maximum pour pouvoir mieux mesurer nos actions et de les quantifier. Tout à l'heure, je disais un des devoirs aussi. Enfin, nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est que quand on devient un membre du réseau et qu'on mène une action de CSTI, c'est de pouvoir avoir une idée de la répercussion et de l'impact sur le territoire. Donc, un engagement de ce côté-là, c'est de nous dire, ben voilà, j'ai fait cette action, j'ai touché tel type de public ou la quantité, ben voilà.
Et justement, quelles sont les attentes de cette collaboration ?
Alors, j'ai envie de dire l'innovation déjà, parce qu'en fait, en mélangeant une certaine nature d'acteurs, on peut avoir des projets qui sont innovants. C'est de pouvoir, je le disais aussi tout à l'heure, mais développer ailleurs des idées qui ont déjà été faites dans certains endroits, de vraiment avoir un impact plus large sur le territoire.
Et donc aujourd'hui, on est au FENO et vous avez inauguré tout juste ce matin le réseau Cogito. Pourquoi avoir choisi ce moment-là en particulier pour inaugurer ?
Alors en fait, on a eu notre deuxième forum de notre réseau de culture scientifique technique en mois de mai. On avait à ce moment-là, on s'était dit on va dévoiler le nom de notre réseau parce qu'il était voilà, on y travaillait depuis 2 ans. On avait structuré les idées principales. On a mis un peu de temps pour trouver ce nom et ce nom, alors le Cogito ou Cogito, le réseau donc pour plus de science et plus de partage en Normandie, on l'a trouvé à peu près à ce moment-là. Mais on s'est dit alors en plus on n'avait pas le logo encore, donc on s'est dit il faut trouver un moment où on pourrait se réunir tous ensemble pour pouvoir vraiment inaugurer le réseau. Et il se trouve qu'on avait la date de la FENO en fin d'année, un FENO qui permet de mettre en valeur l'ensemble de la richesse de la Normandie, que ça soit patrimoine gastronomique, la richesse de ses entreprises, la richesse de ses établissements d'enseignement supérieur, des laboratoires, de la culture aussi. Et on s'est dit pourquoi pas demander nous aussi notre stand et puis voilà, de se poser là, à côté, comme on peut le voir aujourd'hui, des établissements d'enseignement supérieur, et de choisir ce moment-là pour communiquer aussi l'excellence normande en matière de CSTI.
Vous avez évoqué le fait que le nom est arrivé tard dans la construction du projet. Pourquoi avoir choisi Cogito ou Cognito ?
Alors, on voulait quelque chose de simple et percutant, mais en fait, c'est pas si simple à trouver. Et puis finalement, on a longuement hésité, on avait beaucoup de propositions. D'ailleurs, je les ai toutes oubliées. Il faut croire que maintenant, Cogito, c'est une évidence. Mais finalement, oui, Cogito, ça a été un peu une révélation. On s'est dit que ça passait, que ça allait parler aux gens. C'est la réflexion, c'est faire réfléchir. Et donc, on est ravis, en fait, d'avoir trouvé. C'est marrant, hein, quand on cherche quelque chose comme ça, soit un logo, soit un nom, on a du mal. Et puis, en fait, à un moment, il sort. Et puis, on se dit, oui, c'est ça.
Vous avez établi une charte d'engagement. Pourquoi ? À quoi elle sert ?
Ben justement, en fait, c'est qu'on souhaite élargir le réseau, c'est sûr, mais on veut vraiment avoir des partenaires et des membres qui s'engagent pour ce réseau. Et s'engager, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais c'est donner un peu de son temps, c'est participer ponctuellement à nos événements collectifs, c'est participer à la hauteur de ce qu'on peut mettre en termes de temps dans les groupes de travail. Et puis, je le disais aussi tout à l'heure, c'est aussi de faire les retours de ces expériences, et notamment en termes d'impact. C'est qu'on puisse aussi mesurer la nature de ce qui a été proposé. Et puis de s'engager à être présent quand on fait ça, à découvrir les autres, à mettre, si on veut, à disposition des idées. Partager ses projets, voilà. C'est vraiment réseauter pour faire un réseau dynamique et vivant, et voilà.
Et donc, on l'a dit, le Cogito, c'est un réseau qui est initié par la région Normandie. Et quand on regarde un peu à l'extérieur de notre territoire, dans les autres régions, est-ce qu'il y a des exemples de réseaux comme celui-ci qui ont été développés
Alors, j'ai pas fait suffisamment de benchmarking sur le sujet, je saurais pas vous répondre. Ce que je sais, c'est qu'on est plutôt regardé dans le bon sens, en fait. On a, je crois, et on est sans doute la région à afficher un volontarisme aussi important sur la CSTI. Quand je disais tout à l'heure qu'on l'avait mis en ambition à part entière, souvent, c'est intégré dans le cadre de ce stress-free, mais comme un axe ou une petite priorité. Nous, on l'a mise vraiment en ambition. On en a quatre ambitions. Et celle-là, c'est une ligne dans notre schéma, parce que pour nous, c'est un enjeu évident, notamment, vous êtes deux jeunes femmes, mais un enjeu évident d'amener les jeunes vers la science, vers l'industrie aussi, parce qu'on est une région avec une industrie assez forte et des gros besoins. Et donc, j'ai dit les filles, mais voilà, c'est d'ouvrir, de montrer à toutes les filles qu'on peut faire des sciences dures. On a des enjeux sur ce sujet-là, mais des enjeux d'une manière générale, en fait, qui sont forts en région. Et donc, oui, on est regardé par les autres régions. Et en termes financiers aussi, on est une région qui investit beaucoup sur le sujet. En tout cas, on a massifié nos investissements. On essaie en tout cas d'accompagner. Quand je disais quand on intègre le réseau, c'est aussi pour pouvoir, nous, qu'on puisse connaître les acteurs et potentiellement pouvoir les accompagner dans leur stratégie et dans leurs projets, dans leurs idées. Donc là, plutôt un accompagnement financier.
Vous parliez de la question de la mixité à l'instant. Et aujourd'hui, au FENO, il y a plusieurs thématiques, fil rouge. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces choix ? Pourquoi avoir choisi la mixité, la jeunesse, le nucléaire ?
Alors, la mixité, parce que c'est un vrai enjeu qui est présent depuis longtemps, mais il y a des réformes récentes de réforme du bac a par exemple fait malheureusement chuter le nombre de jeunes femmes en termes de matière scientifique. On a perdu en quelques années 30 ans d'évolution où doucement on rattrapait pas les garçons encore, mais je dis on parce que moi je suis scientifique à la base, mais on arrivait à avoir un peu plus de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs. Et là, avec cette réforme du bac, assez spontanément, finalement, les filles vont s'orienter plus souvent vers plus facilement vers des spécialités littéraires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une vraie chute des jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs. Et quand elles font des sciences, elles s'orientent en plus souvent vers, par exemple, des études de médecine ou des études... Alors, il y a un peu de femmes en chimie, mais voilà, il y a un vrai sujet de mixité. Mais je pourrais parler dans les deux sens. Hein. Ce serait bien qu'on ait un peu plus d'hommes dans la gestion des ressources humaines, par exemple. Enfin, voilà, la mixité doit se travailler. Là, on est sur le sujet de la science et de l'industrie. Bon, les filles en industrie, ben, pareil, on a un sujet aussi, même si... Je vois sur le stand à côté, on a Orano qui est présente, qui travaille beaucoup ce sujet de faire venir les jeunes femmes dans l'industrie. Voilà, donc on a un vrai enjeu sur la mixité. Sur le nucléaire, bon, ben, je parlais Orano, mais là, c'est plus un enjeu, puisque la région s'est positionnée... Enfin, là, on va avoir la construction de nouveaux EPR à Penly, et donc il y a un vrai enjeu en termes de formation et de compétences pouvoir répondre localement, en tout cas, de pouvoir amener le plus possible de jeunes vers ces métiers-là. C'est une compétence qu'on avait un peu perdue, puisque le nucléaire était un peu... Pendant plusieurs années, finalement, ça faisait plus partie des priorités, donc on a perdu pas mal de compétences. Alors même qu'en région Normandie, on a un grand savoir-faire. On a notamment le GANIL, mais pas que. Enfin, l'université de Caen est très 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 axée sur ces sujets du nucléaire. Puis le nucléaire, c'est pas que les centrales, c'est aussi le nucléaire en santé. Enfin voilà, il y a tout un enjeu autour de ça. Et on a répondu en région à un AIMI CMA, donc sur les compétences et les métiers d'avenir dans le cadre de France 2030, qu'on a obtenu un gros montant avec de l'argent de l'État qui est fléché sur ces sujets du nucléaire. Et donc, on est tous mobilisés à tous les niveaux de formation, de Bac-3 à Bac+8. Donc, je dis tous mobilisés, c'est la région, des partenaires privés comme Orano, EDF ou EFAG, qui est plus sur la partie génie civil, donc de la construction, et le rectorat, les écoles, les établissements, donc les universités, écoles d'ingénieurs, pour essayer de répondre à ces besoins de demain. Et quand je dis besoin de demain, c'est pour la construction de ces EPR, mais ça va au-delà, puisque derrière, il y aura, en gros, il y a du travail jusqu'à 2100. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir des jeunes normands qui travaillent sur le territoire normand. Voilà.
C'était Julie Barenton-Guillaz, vice-présidente de la région Normandie, chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui nous a présenté le réseau Cogito.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Nous étions à l'inauguration du Cogito au Fesneau vendredi, l'occasion de rencontrer Bruno Dosseur, directeur du Dôme, et Mathilde Pétovary, adjointe de direction pour l'Atrium. Il nous en parle tout de suite.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et votre structure ?
Mathilde Pétovary, directrice adjointe de Sciences Action Normandie. Sciences Action Normandie, c'est un centre de culture scientifique, technique et industrielle en Normandie. Et à travers différentes actions, nous participons à créer des ponts entre la société et les sciences, notamment à travers un lieu emblématique en région, l'Atrium, qui accueille des publics autour d'expositions et d'une programmation événementielle de culture scientifique.
Et Bruno Dosseur, donc moi je suis le directeur du Dôme, qui est le centre de culture scientifique et technique qui est basé à Caen. Alors on fait le même métier que Science Action Normandie, avec une spécialisation. Nous on ne fait pas d'exposition, on fait plutôt de la recherche participative, donc des ateliers autour de programmes de recherche. Et on a notamment la mission d'animer ce réseau Cogito qui vient d'être créé.
Donc en effet, à Caen, on connaît particulièrement le Dôme, mais un peu moins l'Atrium qui est à Rouen, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment ça fonctionne, l'Atrium, sur les lieux ?
Tout à fait. Donc l'Atrium, c'est un espace de découverte scientifique, technique. On présente des expositions tous les 2 ans à peu près sur une grande thématique scientifique. Au sein de votre visite dans l'exposition, vous allez pouvoir découvrir divers aspects scientifiques, notamment actuellement avec l'exposition « Océan, une plongée insolite ». Vous allez pouvoir la parcourir à travers des formats de médiation qui sont variés, des visites guidées, un escape game, un parcours guidé, et découvrir à la fois les dessous d'une grande thématique scientifique, mais aussi rencontrer des chercheurs en région ou des entreprises qui présentent des innovations et qui sont considérées comme des pépites en Normandie.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des activités que vous proposez ici lors de ce festival ?
Alors là, l'idée générale de ce stand Cogito, c'est de présenter ce réseau qui est tout neuf, qui a été donc créé en juin dernier officiellement. Donc c'est la première sortie officielle de ce réseau qui veut regrouper tous les professionnels de la culture scientifique et technique de Normandie. Donc là, vous en avez deux exemples avec Science Action et le Dôme. En fait, on estime qu'il y a à peu près 150 à 200 structures en Normandie qui font de la culture scientifique et technique. Beaucoup d'associations, des musées, des services universitaires ou des services de recherche, des collectivités aussi qui s'y engagent beaucoup. Et on a envie de regrouper tous ces gens-là. Et donc, ce stand ici, c'est pour présenter des formes d'intervention des acteurs de la culture scientifique et technique. Donc là par exemple, très concrètement, vous avez Science Action qui présente une action, je vais laisser Mathilde en parler. Mais vous avez le centre hospitalier de Cherbourg qui vient présenter un projet pour lequel ils ont eu un prix récemment de culture scientifique qu'on a initié. Vous avez les gens Orano qui sont derrière nous, qui présentent aussi le travail qu'ils font au niveau industriel avec les jeunes, etc. Donc, pendant tous ces trois jours, il y a plein d'opérateurs de culture scientifique et technique qui vont se succéder dans cet espace-là pour présenter des actions. Et j'ai oublié mon collègue, évidemment, j'oublie toujours mes collègues. Mon collègue qui est juste derrière, qui fait un projet de recherche participatif sur les bioplastiques qu'on porte en ce moment au Dôme.
Et donc vous, votre activité pour Science Action Normandie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, vendredi, nous présentons une animation autour de la mixité et de l'égalité femmes-hommes dans les sciences, puisque maintenant, on le sait tous et toutes, les femmes sont sous-représentées dans les filières scientifiques. Et donc l'idée de cette animation, c'est justement de lever le voile sur ces questions de mixité et d'égalité aux filières scientifiques, en mettant en lumière des portraits de femmes du territoire, issues des universités, mais aussi des industries en Normandie, à travers un jeu très ludique sous forme de Trivial Pursuit, où les visiteurs vont pouvoir être guidés dans leur rencontre avec ces femmes inspirantes. Et nous présentons également notre dispositif docteur-menteur, où le concept permet à un public de poser des questions à deux personnes présentées devant eux, un docteur et un imposteur, et c'est à eux de découvrir lequel est le vrai chercheur.
Et donc vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a l'inauguration du réseau Cogito aujourd'hui. Comment vous, en tant que... Bon, le Dôme, encore un rôle particulier, mais en tant que structure, comment est-ce que ça s'est organisé, la création de ce réseau, pendant ces deux dernières années ?
Alors ça fait même presque trois ans qu'on y travaille, avec essentiellement des forums régionaux. Donc on a réuni chaque année les acteurs principaux de la culture scientifique et technique pour réfléchir à un plan d'action commun. Et ça a mis à peu près trois années à émerger. La région a monté son projet de culture scientifique et technique pour toute la Normandie. Et donc, assez naturellement, ce réseau était prêt pour être mis sur les fonts baptismaux et démarrer avec ce plan d'action. Donc, ce plan d'action, il est prévu pour trois années à peu près pour bien lancer le réseau et ses principales actions collectives. Alors, il en existe déjà beaucoup, en fait. On ne réinvente pas tout. Les gens connaissent la fête de la science en général. Donc, ça, la fête de la science, elle est pratiquée dans toute la région de Normandie. Donc on remet comme ça dans ce réseau régional des actions phares de ce type. Mais il va y en avoir plein d'autres. Je vois en face de nous, de l'autre côté, il y a tous les collègues chercheurs. Ils ont des outils qui ont été développés dans le cadre du prix Tête Chercheuse, par exemple, qui sont des outils qui peuvent se déployer aussi sur tout le territoire régional. Le réseau, il va permettre de faire circuler des choses en région beaucoup plus et faire en sorte que dans n'importe quel territoire, on puisse faire plus facilement de la culture scientifique.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ?
Nous, Science Action, on est ravis de faire partie du réseau Cogito. C'était absolument nécessaire et ça nous permettra, j'en suis sûre, d'augmenter notre impact pour le public.
Et oui, justement, quel est l'intérêt de faire partie d'un réseau comme celui-ci pour des structures comme les vôtres ?
Alors, je ne sais pas si nos deux structures sont les mieux placées parce que nous, on est des acteurs très identifiés de la culture scientifique et technique. Donc, on aurait pu vivre sans réseau, Science Action et le Dôme. Par contre, pour beaucoup de structures, c'est très difficile d'être identifié. C'est difficile quelquefois de trouver des partenaires scientifiques, tout simplement. C'est difficile de pouvoir faire itinérer des outils qu'on a créés. Ce réseau, il va faciliter tout ça. Il facilite l'interconnaissance et il va faciliter le fait de faire des projets ensemble. C'est tout l'intérêt d'un réseau, hein, de faire en sorte qu'on puisse travailler davantage ensemble. Et on était avant deux centres de culture scientifique régionaux à travailler cette diffusion de la culture scientifique, mais il y avait plein d'acteurs sur le terrain qui, eux, n'avaient pas la même visibilité, la même capacité à entrer en contact avec les pouvoirs publics, par exemple. Donc, ce réseau, il va faciliter un petit peu tout ça. Puis, nous, on compte beaucoup sur l'intelligence collective pour inventer des choses un peu plus performantes. Donc, comme on n'a pas la science infuse, c'est bien de travailler avec les autres pour que des idées émergent, tout particulièrement dans des territoires où on n'est pas capable d'aller quelquefois, tout simplement, parce qu'on ne connaît pas les publics qui sont là-bas, on ne connaît pas les structures. Et on a besoin des gens du terrain pour mener des actions et on leur donne les moyens de mener ces actions plus facilement, que ce soit des moyens financiers, techniques, des dispositifs, etc. C'est toute la vocation d'un réseau et il s'en crée beaucoup en ce moment en France. Toutes les régions françaises essayent de se doter d'un réseau régional de culture scientifique et technique. Et il existe un grand réseau national qui s'appelle l'AMSTI, dont on fait tous partie, qui fédère plusieurs centaines de professionnels au niveau national.
Vous parlez justement de travail collectif. Comment donc l'Atrium et le Dôme travaillent ensemble et dans quel sens vos structures qui sont pourtant différentes peuvent être complémentaires sur justement ce travail de réseau ?
Comme le disait Bruno, en fait on est deux centres de culture scientifique. A priori on fait la même chose mais on s'y prend vraiment très différemment. On travaille ensemble sur la fête de la science que vous connaissez probablement. Pour Science Action, on coordonne les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime et le Dôme, les trois autres départements de la région. Et après, on peut se rencontrer sur des actions très spécifiques. On est en concertation, on connaît ce que fait l'un et l'autre, donc on sait pour se renvoyer la balle et aussi orienter les acteurs et les publics vers les formats qui les intéressent.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait deux sites importants aussi, un à Rouen, un à Caen, qui permet de fédérer les acteurs et puis effectivement de trouver des vraies complémentarités. On ne fait pas les mêmes formats, donc c'est ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a chacun une spécialisation, un métier très spécifique. Nous, on ne fait pas d'exposition du tout, par exemple, donc ça, c'est vraiment le métier de Science Action, et nous, on est beaucoup plus dans cette recherche à travers des ateliers. C'est extrêmement complémentaire, et moi, je me réjouis vraiment qu'on ait pu trouver cette combinaison-là pour que ça maille bien le réseau régional complètement, et, parce que l'intérêt, c'est que ça atteigne tous les publics partout en région.
Le FINO, c'est le premier temps fort de Cogito. Est-ce que vous avez d'autres projets prévus en collaboration ?
En collaboration pour Cogito, de façon générale. Il y aura un forum régional, donc il aura lieu le 12 juin. Je peux déjà annoncer la date, puisqu'elle est quasi officielle maintenant. Je ne peux pas encore annoncer le lieu, mais on va bouger. Ce sera plus Caen et Rouen, ce sera une autre commune. Donc c'est un rendez-vous vraiment annuel qui est important pour ce réseau. Et puis entre deux, on a plein de rendez-vous. On a eu la fête de la science pas plus tard que la semaine dernière. Donc ça, tout le monde en sort un petit peu. Et il y a plein de festivals. On va, à travers le réseau Cogito, proposer un agenda de la culture scientifique et technique tout au long de l'année. On a repéré à peu près 30 manifestations intéressantes qui ponctuent toute l'année et qui seront autant de rendez-vous pour Cogito. En plus du travail qu'on fait derrière, de groupes de travail qu'on va mettre en place. Il y a plein d'endroits où des professionnels se réunissent pour préparer des choses. Donc ça va être notre activité cette année. Et puis, il y a plein de temps forts où on va aussi rencontrer collectivement les publics.
Vous parliez justement de groupes de travail. La vice-présidente de la région Normandie nous en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus en profondeur là-dessus ? C'est quoi ces groupes de travail qui sont prévus avec le Cogito ?
Dans un réseau comme le nôtre, l'idée, c'est de faire en sorte que les adhérents du réseau travaillent ensemble sur des sujets. Donc, on a repéré 6 sujets sur lesquels c'était important de démarrer assez vite notre structuration. Donc, je vais vous en donner un exemple. Pour être concret, le fait de partager des dispositifs. Voilà, quelqu'un a créé un dispositif de culture scientifique. Et comment on fait itinérer sur l'ensemble du territoire régional ? Ça peut être une chose assez simple à mettre en œuvre collégialement. Mais il faut se mettre autour de la table pour bien identifier les outils et se dire, est-ce que ça peut être mis en circulation, à quelles conditions, pour que chacun des acteurs puisse s'en emparer. Voilà un groupe de travail extrêmement concret. On en aura d'autres sur l'évaluation, des choses un peu moins marrantes, mais faut évaluer notre action, parce que l'idée d'un réseau, c'est de voir si on a un impact, quel impact on a, et s'il y a des endroits où on n'a pas d'impact, comme on fait dans des territoires où on n'est pas présent. Donc on a besoin de s'évaluer, évaluer nos actions. Voilà un autre sujet d'un groupe de travail, par exemple.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou...
Science Action va mener l'animation d'un groupe de travail autour de la mixité dans les sciences, puisqu'il est urgent d'agir et d'amplifier nos actions à ce sujet-là. Donc, vous en saurez probablement davantage à partir de 2025.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Et
merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous et puis bonne journée.
Bonne journée, merci.
À l'instant, c'était Bruno Dosseur, directeur du Dôme, et Mathilde Pétovary, adjointe de direction pour l'Atrium, qui nous ont parlé de leur structure et leur collaboration au sein du Cogito. Vous pouvez retrouver toutes les actualités du réseau sur le site écosciences-normandie.fr.
Vous écoutez, c'est pas faux. sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant cela, c'est l'heure de l'agenda de la semaine. Depuis le 18 octobre et jusqu'au 10 novembre, le Fonds Régional d'Art Contemporain de Caen diffuse le film 1%. Ce film a été réalisé par un artiste en résidence à Caumont-sur-Or. Il parle de la disparition du hêtre pourpre, l'arbre centenaire qui était situé sur la place centrale de la commune. C'est gratuit en libre accès du mercredi au dimanche de 14h à 18h et vous pourrez rencontrer le réalisateur à l'occasion du vernissage jeudi 24 à 18h30.
Et ce même jeudi, la Société Normande de Philosophie propose une invitation à la philosophie contemporaine. Ça se passera à la bibliothèque de Tocqueville dans l'auditorium adulte à 18h30. Vous y découvrirez deux ouvrages, Penser la violence dans l'art occidental d'Éric Combaste et Elinor Miara-Kelif et Beauté de l'éphémère, apologie des bulles de savon de Pierre Zaoui.
Lundi 28 octobre, le CPIE, Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement de la Vallée de l'Orne, vous invite à participer à la préservation du littoral à Courseulles-sur-Mer. Au programme, découverte de la laisse de mer, nettoyage de la plage et caractérisation des déchets, le tout accompagné par un navigateur professionnel normand. C'est ouvert à tous dès 6 ans, pensez juste à vous inscrire en amont. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Émile à la technique, on se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, rendez-vous avec Bastien pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.